Voilà, nous sommes heureux de voir le soleil, de voir ce bon temps. Donc, la parole de Dieu a la puissance de sauver. Hein? C'est clair que dans le système sacramentel de l'Église catholique et aussi de l'Église orthodoxe, et même dans l'église copte, orthodoxe copte d'Érythrée, Somalie, Éthiopie, ce sont les prêtres et leurs sacrements qui sauvent, qui sont les moyens et les sources de salut. Dans la réforme, avec Luther, c'est fini tout ça. C'est niet. Et il n'y a pas de tout ça. Et pratiquement, la parole de Dieu est le moyen et la source du salut. Évidemment, ça existait hein, jusqu'au milieu du 3e siècle. Hein, ça existait, même du 4e siècle. Et puis, il y a eu des chrétiens qui sont toujours restés attachés à la parole et qui n'ont pas cédé à cette évolution malheureuse vers l'instauration des prêtres et des sacrements. Hein. Et des moyens humains. Donc, dans la première épître de Pierre, vous avez bien sûr des appels, hein, des appels de Dieu à retourner vers la parole. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 24. Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Donc, l'humain est quelque chose de passager, de fragile. Soumis à la dépravation, à la vanité, c'est quelque chose de très limité, l'être humain. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 24. Évidemment, cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. L'Évangile est donc la localisation précise, la voiture, l'instrument, le véhicule de cette parole éternelle qui demeure éternellement et qui sauve. C'est extrêmement important, les amis. Et en réaction à tous les abus qui ont eu et qui ont encore lieu, hein, il y a encore lieu, beaucoup de gens sont entraînés dans l'égarement par toutes sortes de mauvais enseignements. C'est vraiment, vraiment l'apôtre Pierre qui a parlé comme ça. C'est pour dire que celui qui lui succède aujourd'hui n'est pas son représentant, son successeur. Je tiens à prendre ce verset-là. Romains, chapitre 1, verset 16. Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, la personne qui croit en Dieu, qu'il est vivant, qu'il est juste, qu'il est un juge pour notre conscience, qu'il rétribue le bien et le mal, un Dieu qui sauve aussi.
Romains,
chapitre 1, verset 16. Eh bien, l'Évangile est une puissance pour cette personne-là qui a déjà ce cœur. Non pas, c'est pas une tendance humaine. Hein. Avoir un cœur comme ça, c'est déjà un travail de Dieu en nous. Dans Jean chapitre 6, verset 35 et verset 63, « Nul ne vient à moi si ce n'est mon Père qui l'attire à moi. » Tout est grâce. Nous ne pouvons pas, nous sommes tellement liés par une puissance de péché, nous ne pouvons pas préparer notre salut par nous-mêmes. Ça, c'est clairement dans la doctrine protestante et même de la Bible. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui, donc en l'Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi. La justice de Dieu, c'est que Dieu sait que l'homme ne peut pas se sauver lui-même, et ne peut pas être sauvé, s'il ne fait pas une œuvre rédemptrice pour lui. La voiture au bord de l'autoroute ne peut pas sortir de la bande d'arrêt d'urgence si la dépanneuse ne vient pas. Le Titanic qui est au fond de l'océan ne peut pas remonter à surface, il n'y a pas des bateaux avec des grues qui le remontent. Il faut une action puissante de Dieu pour ramener un pécheur à la vie. Et donc, vous voyez ici dans ces versets-là, celui de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Donc, la puissance de Dieu s'exécute, mais comment, à quel moment? Quand la foi est déposée dans le cœur de l'homme, l'homme remonte à la surface, comme le Titanic qui remonte à la surface, comme la voiture est mise au garage par la dépanneuse et est sortie de l'autoroute. Et la bande d'arrêt d'urgence, où en 20 minutes, elle est condamnée à avoir été percutée. Vous savez bien, en France, les bandes d'arrêt d'urgence sont mortelles. Elles sont tellement étroites, et puis il y en a toujours pour passer, pour rouler dessus, quand ils sont trop pressés. Alors, par la foi, qu'est-ce que c'est que la foi? Puisque la foi est un moyen par lequel l'Évangile me donne un statut de juste, me donne le pardon. Ah. La justice de Dieu par la foi et pour la foi. Donc, Dieu a décidé de sauver le pécheur perdu parce qu'il est juste, parce qu'il est notre Père. Il n'a pas en lui de mal, il aime ses créatures, mais n'aime pas le péché. Il faut donc une œuvre de rédemption, parce qu'il est juste. Et en plus, il sait que l'homme n'est pas capable de ressortir du bourbier dans lequel il s'est mis, dans lequel il est plongé depuis Adam et Ève. Alors, il est écrit dans l'Ancien Testament, le juste vivra par la foi, donc c'est Habakkuk, hein, au chapitre 8e siècle avant Jésus, Habakkuk avait déjà annoncé ça au chapitre 2, le juste vivra par la foi. C'est Dieu qui avait averti le peuple d'Israël que ça serait par la foi et pas par les rites, le légalisme, le temple, les prêtres. Hein. Donc, on va aller un peu plus loin dans toute cette réflexion, mais ça c'est des... C'est un verset clé sur lequel s'est penché Luther. Donc, cette parole dans Romains au chapitre 10 est un peu plus analysée, un peu plus explicitée. Quand la parole est donnée par un témoin, un chrétien, pas forcément un pasteur, un chrétien donne la parole de l'Évangile. Tu sais que Jésus est mort sur la croix pour toi, le Fils de Dieu est venu sur la terre pour toi, toi qui es un pécheur perdu, et si tu veux être sauvé, il faut que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, il faut que tu acceptes son sacrifice à la croix. Tu sais qu'il est vivant aujourd'hui, il est ressuscité, qu'il peut te conduire, il peut venir dans ta vie et habiter en toi, et te donner une nouvelle vie, pas celle que tu as reçue de ton père et de ta mère. Tu sais qu'il peut engendrer en toi un nouveau vouloir, un nouveau faire, et que tu dois aussi être aidé par lui pour abandonner la boue que tu as reçue de tout ton milieu. Eh bien, oui, si tu le crois, tu es sauvé. Eh bien, regardez bien. Cette parole, lorsqu'elle est dite par un croyant à quelqu'un d'autre, c'est le principe même que Dieu a décidé d'appliquer sur terre par les témoignages. Romains chapitre 10, verset 8. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole doit être donnée aux autres par quelqu'un qui a la foi. Si quelqu'un est en Christ, alors Christ en lui, cette foi peut être transmise. Si ce quelqu'un se prétend de Christ et ne fait pas la volonté de Dieu, la volonté de Christ, là, il ne pourra pas transmettre la foi. Il ne pourra engendrer que des charnels alentour de lui, à apparence chrétienne. Il ne pourra pas transmettre le trésor de la foi. Il faut que le chrétien soit habité de Christ. Celui qui a habité de Christ est dans la volonté de Christ. Il n'est plus dans sa propre volonté. Et ce chrétien peut apporter la parole de Christ qui est en lui à celui-là qui est sans Christ. Je suis précis et je tiens, et c'est assez sévère, mais c'est comme ça. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Donc il n'y a pas de parole qui se transmet, qui est vivante et qui génère la foi chez les autres, si nous-mêmes, nous ne sommes pas dans la foi, en Christ, obéissant à Christ. Oh, c'est ça le grand drame des cours de religion dans les écoles en Belgique et tout le reste, hein, tout le bazar, et de beaucoup d'églises, hein, où la foi, on se demande ce que c'est, en train de se gratter la tête. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, donc au pardon des péchés. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc, la confusion, c'est quand on fait des choses de Dieu et des choses de la chair. Des choses, Jésus l'a dit, celui qui ne m'aime pas plus que son père, sa mère, son frère, ses soeurs, etc., n'est pas digne de moi. C'est clair, il y a quelque chose, il n'y a pas de confusion, c'est tout à fait, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, donc il n'y a pas d'église pour les juifs, il n'y a pas d'église pour les grecs, il n'y a pas d'église pour les noirs, il n'y a pas d'église pour les tziganes, il n'y a pas d'église pour les français, il n'y a pas d'église pour les belges. Les églises ethniques ne sont pas dans la volonté de Dieu, pour moi. Elles ne sont pas bibliques. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc, vous voyez bien, pour invoquer Dieu, s'adresser à lui, il faut avoir cru, il faut avoir la foi. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Vous voyez, quand le petit gamin dit « Moi, je veux être mécanicien et pasteur », il a déjà un appel. Il a déjà un appel. Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Esaïe dit-il, Seigneur qui a cru à notre prédication. Ça, c'est tout à fait les premiers versets de Esaïe 53 quand on parle du sacrifice de Christ. Hein. Tout chapitre rédempteur, le sacrifice rédempteur de Jésus. Eh bien, pratiquement, qui a cru à notre prédication. Donc, déjà dans Esaïe, on voit que la foi est essentielle pour comprendre. Elle l'est à la base pour accepter le message de Esaïe 53. Le message de la croix. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous voyez le processus? Le processus est formidable et est tout simple. Il faut qu'il soit respecté comme Dieu l'a instauré. Alors, au verset 20, Esaïe pousse la hardiesse, c'est chapitre 65, verset 1. J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Et dans Esaïe, c'est mis, je leur ai dit, me voici, me voici. Voilà. C'est un point de départ. Regardons dans Galates, quel est l'effet de la parole dans la vie de quelqu'un. Et nous rejoignons là le don du Saint-Esprit. Dans Galates, ce sont tous des textes sur lesquels s'est penché Luther, mais comme des tas de gens qui cherchaient la vérité biblique. Pourquoi? Ils avaient reçu tellement de mauvais enseignements qu'ils en avaient marre de patauger et ils n'étaient pas certains de leur salut et donc ils avaient des angoisses, des troubles. Vous voyez, le truc, c'est que il y a eu un immense orage sur un chemin où Luther marchait, il a manqué de mourir, la foudre est tombée pas loin de lui, il est rentré et il a compris qu'il n'avait pas la paix. En plus, il avait toujours cette obsession du péché, ben, oui, il était catholique, il enseignait avec les sacrements, etc. Et donc, pratiquement, heureusement, le responsable lui a permis, il fallait une autorisation écrite pour pouvoir lire la Bible. Parce qu'elle était interdite depuis 1067. Elle a été interdite 9 siècles dans l'Église catholique. C'est avec Jean 23 qu'on a ouvert les portes. Déjà avant, il y a eu des précurseurs, Fanon, Crampon, etc., d'autres. Mais bon, c'était toléré, comme les maisons de tolérance. Hein. Mais pratiquement, c'est avec Jean 23 qu'il y a eu une ouverture réelle. Et pratiquement, ce brave homme qui était dans l'angoisse, qui ne savait pas réellement s'il était sauvé, qui cherchait Dieu, qui aimait Dieu, a trouvé dans les textes, parce que son supérieur lui a donné l'autorisation, il est tombé sur un brave chef, comme on dit, un brave supérieur, et il a pu aller dans la Bible. Et c'est l'épître aux Romains, l'épître aux Galates, tous ces textes qu'on voit en vitesse, hein, malheureusement. Là, je prêcherai là-dessus à l'Expo Bible. Et pratiquement, qui ont touché son cœur, hein, qui ont touché sa vie, qui lui ont donné la paix. Adieu les angoisses, adieu les craintes sur son salut. Alors Galates chapitre 3, verset 2. « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Pourquoi ? Parce que juste avant, il les dénonce. Vous êtes dépourvus de sens. Vous êtes fascinés. On vous raconte n'importe quoi sur Jésus, vous gobez tout. » Chapitre 3, verset 1. Ben, c'est comme plein de gens, hein. Malheureusement, aussi dans le monde évangélique. Voici seulement, verset 2, ce que je veux apprendre de vous. Et cette parole-là, cette façon, cette tournure d'esprit de Paul, on la retrouve dans 1 aux Corinthiens. Voici ce que je veux seulement apprendre de vous. Jésus-Christ crucifié. Hein? Au chapitre 2. Mais là, il s'y prend autrement. C'est une tournure, c'est une façon, une argumentation chez Paul. Hein. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit Saint ? Donc, en appliquant des règlements, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit Saint ? Ou par la prédication de la foi ? Donc là, on voit que quand Luther va tomber là-dessus, il va se dire, ah bon, j'ai compris. Les pénitences, les pèlerinages, les sacrements, les confessions, tout le bazar, allez hop. Hop, déblayé. Hein? Et ce qui s'est passé, c'est que la prédication de la foi, c'est l'évangile qui arrive sur le terrain de la foi, au moment où Dieu fait grâce à la personne et la travaille, la présence de la parole percute un cœur que Dieu engendre au salut. Il faut la conjonction de la grâce totale, de cette libération, de l'aveuglement, du péché, de la puissance du péché, et il faut en même temps la parole. Vous vous rendez compte à quel point vous êtes responsable de quelque chose chaque fois que vous rencontrez des gens, de votre parole ? Parce que si quelqu'un est travaillé par Dieu pour recevoir la parole et vous ne le faites pas, c'est quoi ? Vous moquez du salut de cette personne et de Dieu. Comment pouvez-vous deviner que Dieu a travaillé son cœur et qu'elle est sur le point de croire, qu'elle est travaillée? Vous vous mettez en juge en disant celle-là, non. Je trie. Ben, je pense qu'un chrétien démissionnaire n'est pas chrétien. Le chrétien a toujours une mission. Il est missionnaire. D'office. C'est certain, c'est peut-être pas au premier choc, aux premières rencontres, mais dans la prière, le chrétien ne va pas abandonner la rencontre qu'il a faite. Et il va demander à Dieu, quand est-ce que je dois ouvrir ma bouche ? Et qu'est-ce que je dois dire ? Mais le chrétien qui dit, moi c'est pas pour moi, c'est pas ma tasse de café, moi c'est bon avec le culte et mon petit salut personnel, c'est pas de la foi chrétienne. Alors, avez-vous reçu l'Esprit Saint ou par la prédication de la foi ? La prédication de la foi, donc, ce que quelqu'un dit à propos de son salut à l'autre, de ce que Jésus a fait à la croix, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, cela va toucher le cœur et il faut donner un évangile, il faut donner des versets. Et cela vient de la parole de Christ. Il faut se référer à la parole de Christ. C'est à ce moment-là que c'est une prédication de la foi. Vous êtes dans l'attitude de la foi active, de la foi obéissante. Êtes-vous tellement dépourvu de sens, donc il critique les chrétiens de cette église qui veulent retourner à des règles judaïques, hein? Oh, ça existe aujourd'hui, hein? Je suis tombé sur une famille ici, pas loin, je ne vais pas trop dire, mais c'était tout plein de tout d'un coup, ah oui, on est évangélique, mais on veut appliquer tous les rites juifs, etc., tout bazar. Purée. S'ils regardèrent Jésus, déjà, ils verraient bien que... Il y a l'apôtre Pierre au chapitre 10 et 11 des Actes des Apôtres. Alors, comme une espèce d'obsession. Il faut s'identifier à des rites de d'antan chez les Juifs. Une idolâtrie de nouveau. Alors, regardez bien. Après avoir commencé par l'Esprit Saint, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit Saint et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi, quand vous appliquez des règlements mosaïques de Moïse, ou par la prédication de la foi? Donc celui qui vous accorde l'Esprit Saint, hein, c'est celui qui passe par le témoignage de la foi, par la prédication de la foi. C'est celui qui passe par la parole. Qui passe par la parole? Christ. Voilà. C'est tout le thème dans l'Épître aux Romains de la foi. Et il se répète, bien sûr, dans Galates, au chapitre 3, verset 11, que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il a dit, le juste vivra par la foi. Rendez compte que vers les années 58-60, il faut déjà que Paul se batte pour ce problème-là. Alors, imaginez... En 1445, ou c'est 1300, il y a 5 siècles.
Non, 1517.
Voilà, il y a 5 siècles. Imaginez le même problème pour Luther. Luther qui se rend compte que tout le monde se fourvoie. Et il ne peut plus supporter qu'on reste dans cet égarement. Pas plus que Paul, hein? Regardez comment il commence son chapitre 3. Dépourvu de sens, fasciné, etc. Ben oui. Alors, le juste vivra par la foi. Tout le thème de l'Épître aux Galates traite de cela. De cela. Galates chapitre 4, verset 3. Nous aussi, de la même manière, nous étions enfants. Nous étions sous l'esclavage rudiment du monde. Donc, le principe religieux, quoi. Mais lorsque les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme. C'est, le mot en grec, c'est guné. Ça veut dire, c'est une femme qui a eu des relations avec son mari, la guné. Ça donnait guné gynécologue, hein. Gynécologie, en français. Et là, c'est, qu'on le veuille ou non, hein, pour catholiques, pour tout le monde, le dogme de la Marie toujours vierge est faux, hein. Les théologiens catholiques, les exégètes le savent, moi je l'avais étudié. Ce texte est clair là-dessus. Né sous la loi, donc une juive, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, donc ceux qui sont sous la loi, et les principes judaïques sont perdus, sont pas sauvés. Il faut être racheté. Afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie « Abba, Père ». Donc vous voyez clairement que par le témoignage et par la grâce souveraine de Dieu qui appelle quelqu'un à recevoir ce témoignage, la conjonction du témoin et la conjonction de celui, le réceptacle, celui qui reçoit, provoque un miracle. Vous êtes fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Et l'esprit du fils, c'est d'aimer le Père. Romains 5, 5. L'esprit a été répandu dans... l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Donc, l'amour du Père, le même esprit, est l'amour de sa volonté. Ce n'est pas une théorie, le Père. Ce n'est pas un fantôme. Et s'adresser à lui comme Abba, papa, père. Le mot Abba, ça a été repris dans l'Église catholique, hein, monsieur l'abbé, père abbé. Ben oui, parce que ça veut dire père, alors que c'est interdit.
Je crois qu'un abbé, c'est en dessous d'un curé, pardon.
Un curé, c'est une fonction. Il s'occupe d'un petit secteur, un petit territoire, et c'est une fonction. L'abbé, c'est la place, il prend la place du père, le prêtre. Il est le représentant du père sur terre. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc, ce qui est exprimé là, c'est que la grâce, c'est un cadeau immérité. C'est quelque chose de donné complètement par Dieu, et l'homme ne peut donc pas se sauver par lui-même. Quand l'homme pense qu'il peut se sauver par lui-même parce qu'il est gentil, parce qu'il est bon, il fait ses prières, il va à la messe, il va au culte, etc., ça s'appelle, c'est la théologie d'Occam, c'est l'occamisme qui existait à l'époque de Luther et qui existe encore aujourd'hui, qui court dans beaucoup d'esprits. C'est clair que vous avez là, franchement, le point de départ de l'œuvre de l'Esprit Saint. Dans Romains chapitre 8, il faut vraiment avoir des bases dans la foi pour s'examiner soi-même, pour vouloir progresser. Hein? La réforme, ça ne se fait pas il y a 500 ans. La réforme, c'est quelque chose de permanent en nous. Il faut quitter toute attitude charnelle et toute attitude de religiosité, et il faut être dans l'œuvre de la grâce. Sous la grâce, dans la grâce. Donc Romains 8, verset 14, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » Donc quand Luther a trouvé tout ça, allez hop, c'était beaucoup mieux qu'un psychiatre. Hein? Beaucoup mieux. La parole de Dieu guérit. Hein? Et ce, les cœurs angoissés. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a point de condamnation pour celui qui croit en Jésus-Christ. Romains 8, 1. Et il n'y a point de culpabilité. La régénération est une pure grâce de Dieu. En même temps que le pardon des péchés, hein, c'est une pure grâce de Dieu, la régénération. C'est un fait central. Dans Éphésiens 2, 8, dans Éphésiens 2, 8, la foi n'est pas une invention, une création de notre esprit. Ce n'est pas la fabrication de pasteurs manipulateurs qui savent parler et qui bourrent le crâne. La foi est un don de Dieu. Elle peut être donnée au plein milieu de la montagne, derrière un petit berger, derrière un troupeau de moutons, parce qu'il est en train de lire sa Bible, il est en train de recevoir le message de Dieu. Elle peut être donnée à un enfant parce qu'il a simplement entendu la parole de Dieu et la rencontre se fait. Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Quand vous vous levez, il n'y a pas de problème. Hein? Paul le dit dans les Actes des Apôtres, il dit aux Athéniens, c'est ce Dieu du ciel et de la terre en qui nous avons le mouvement, je bouge les mains et les pieds quand je me lève, hein? la respiration et l'être. Hein? Si je ne respire pas, c'est... Hein? Et l'être. C'est plus profond encore que la respiration et bouger les pieds, l'être. Alors, je reçois le soleil aujourd'hui. Je suis venu en voiture. C'est moi qui ai fait la voiture? C'est moi qui ai fait le tarmac de la route? Moi qui ai fait les lunettes qui j'ai sur le bout du nez? C'est moi qui ai fait le béton là? Tout est don de Dieu. Tout est don de Dieu. Tout est don de Dieu. C'est moi qui ai fait cette fleur là, là-bas, la lampe là? Tout? Tout est don de Dieu. Mais alors, pour être en Dieu, dans sa présence, alors c'est encore monumentalement plus grand. C'est un don souverain, un don exceptionnel, un don impossible à acheter. Il a été acquis par le sang de Jésus, par l'agneau. Et ça ne vient pas de nous, ça vient de Christ. Mais Christ, c'est une théorie, c'est un nom, c'est un fantôme. À partir du moment où Jésus a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, j'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, Matthieu 28, 18 à 20, Christ, en moi, Paul dit dans Colossiens, votre vie cachée en Christ. Cachée pourquoi ? Je me regarde dans la glace, je ne vois pas le Christ encore. Je vois que j'ai changé avec le Christ, oui, je le vois. Mais un jour, je vais le voir, je vais lui devenir semblable lorsque je le verrai face à face, dit Jean, dans sa première épître, au chapitre 3. Alors, ce n'est point par les œuvres, regardez, Éphésiens chapitre 2, verset 9, ce n'est point par les œuvres, donc les actions, afin que personne ne se glorifie. Nous sommes son ouvrage, donc, dans la conversion, la foi, c'est comme un potier qui prend de l'argile, le premier vase était mal foutu, un peu de travers. Allez, hop, on recommence. Il reprend l'argile et il fait tourner. Il met sa main, il fait le vase. Et c'est dans Isaïe, ça, bien sûr, dans Jérémie, dans Romains. Et pratiquement, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres. Dans les mains de Jésus-Christ, je suis dans les bonnes mains, et je serai le vase agréable à Dieu. Hein? Pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Voilà le programme de Dieu. Dans sa grâce. L'œuvre de chrétien, c'est la reconnaissance, évidemment. La foi est une reconnaissance, une action de grâce, par définition. C'est une glorification du salut qui m'est donné en Jésus, par Jésus. Mais Jésus n'est pas loin. Paul dit, j'ai été crucifié en Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2, verset 22. Pourquoi ? À partir du moment où je quitte ma condition de pécheur, séparé de Dieu, mort, que je reçois Christ, je reçois sa parole, il faut savoir que la parole de Christ, c'est Christ, c'est la même personne. La parole de Christ et Christ, c'est la même personne. Lorsque je reçois sa parole, que je l'aime et je la mets dans mon cœur, je reçois Christ. Il n'y a pas de séparation entre la parole et Christ. Christ est le Logos, le Créateur du monde, du ciel et de la terre. Christ est le Verbe incarné. Il est la lumière du monde. Alors, c'est extrêmement important. Rendez compte à quel point le message de Luther, tout comme celui de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jean, tous les apôtres, Luther redonnait la vérité biblique à un peuple qui était nourri de mensonges. Alors, démolissons la théorie rapidement, la théorie qui dit que le baptême sauve. Marc chapitre 16, verset 16. Marc et c'est ça qui nous sépare fondamentalement de la doctrine catholique. C'est ça qu'ils nous reprochent. Ils savent que nous aimons la parole de Dieu. Ils savent que nous avons beaucoup à leur apprendre. Que notre foi est profonde, mais ce qui les dérange, c'est notre doctrine du baptême. Pour eux, le baptême donne la vie éternelle. Parce que Cyprien de Carthage, Tunis, hein, en 365, a inventé le prêtre. Et quelques années plus tard, Augustin, aussi du même coin, Carthage, a inventé les sacrements. Pourtant, ils ont fait, ils ont écrit, témoigné de choses exceptionnelles dans leur enseignement. Mais sur certains points, ils ont montré qu'ils n'étaient que des hommes qui s'écartaient de la parole de Dieu. Il ne faut pas s'écarter de la parole de Dieu, les amis. Il ne faut pas inventer des couleuvres, dire du vrai et du faux en même temps. Et Marc chapitre 16, verset 16, « Celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé. » Tu vois très bien, madame la marquise. Mais celui qui ne croira pas sera condamné, et patatras. Donc s'il n'y a pas la foi, il n'y a pas de salut. On a beau être baptisé, s'il n'y a pas la foi, on n'est pas sauvé. C'est pour ça que je vous demande de savoir, tous, si vous avez déjà fait une fois votre confession de foi devant votre église. Il faut le faire un jour, si vous ne l'avez pas fait. Votre confession de foi fait partie de votre devoir de chrétien, et devant Dieu, en Dieu. c'est dire ce que Christ a fait dans votre vie pour vous, le témoigner en prenant des versets, en expliquant, non pas peut-être tous les détails d'une vie de péché, mais ce qu'il y a en disant comment Jésus est venu dans votre vie, comment il a œuvré, il a forgé, il a donné le salut. C'est nécessaire, c'est nécessaire. Vous avez vu dans Romains chapitre 10, c'est en confessant de la bouche qu'on est sauvé. Je l'ai demandé une fois à un couple qui venait ici, qui était généreux. Le trésorier a dit, mais si tu continues avec eux, ils vont partir. On perdra 400 euros par mois dans la trésorerie de l'église. Il n'y a pas de problème, on peut perdre tout l'argent qu'on veut, ça ne m'intéresse pas. J'ai demandé qu'ils témoignent à la fois. Le mari l'a fait, la femme n'a pas voulu. Il m'a dit que je l'ai persécuté. J'étais un légaliste, etc. Elle a cherché à gagner les autres personnes contre moi. Ça ne m'échauffe pas. Je lui ai dit, nous sommes dans une église où on confesse sa foi. Nous ne sommes pas dans une église de multitude où tout le monde se cache derrière les autres pour se dire chrétien. Mes amis, si vous n'avez encore jamais témoigné une autre fois, il est temps de le faire. C'est dans votre devoir. Et c'est plus important pour moi que le baptême. Plus important que le baptême, vous m'entendez? D'autre part, si vous avez été baptisé autre part, quel que soit, vous devez, par honnêteté pour notre église ici, en donner une preuve.
Deux fois, pas une.
Alors, regardez bien. Regardez bien ici ce qui est mis. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Mais rappelez-vous ce qu'on a vu dans Romains chapitre 10. La parole est près de ton cœur si tu crois. Hein, tu seras sauvé, mais tu la confesses, il faut confesser. Donc, eh bien, une famille est partie à cause de ça. Et les 400 euros, je n'ai jamais pleuré, moi. Je ne pleurerai jamais pour l'argent, Dieu est assez riche pour en donner pour l'église autre part.
Bah oui.
Dieu est assez riche pour donner l'argent pour autre part qu'il nous faut, pas plus ni moins que ce qu'il nous faut. Mais quel grand malheur que quelqu'un ait fait de la manipulation pour se débiner et ne pas faire ce que le Seigneur lui demandait. Ça, c'est un grand malheur, parce que devant Dieu, il ne pourra pas se présenter. Mais la personne a trouvé une autre église où il peut faire du catéchisme avec des enfants, etc. C'est pas normal. C'est parce que nous ne sommes plus unis dans l'église de Christ actuellement. Mais bon, ça a commencé déjà au 1er siècle, au 2e siècle, etc. C'est une maladie inhérente à l'homme. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes sauvés en Christ et que la nouveauté de vie doit être manifestée par la parole. Comme Dieu est venu en Christ sur la terre pour manifester par sa parole la vérité de Dieu, nous, enfants de Dieu, nous devons manifester la vérité venue dans notre vie par la parole. La parole est le moyen que nous avons d'apporter le salut aux autres. Et j'ai dit à la personne, mais tu ne te rends pas compte, c'est devant 15 ou 20 personnes, on n'est pas nombreux, je te demande ça. Alors qu'est-ce que tu fais dans ton village? Qu'est-ce que tu fais avec les gens que tu rencontres alors? Comment on peut te dire que tu témoignes? Et tu ne peux même pas le faire devant des frères et des sœurs. Pas de réponse. J'étais le plus horrible des pasteurs qui exista pour cette personne. Elle a donc convaincu son mari de ne plus venir. Les amis, je ne peux pas vendre mon âme au diable. Vous avez compris. Je l'espère. C'est dommage, parce que je ne souhaite pas des choses pareilles. Mais Dieu les a demandées clairement. Alors, la théologie de l'Esprit Saint, elle passe par des choses simples. Vous avez vu le baptême. Le baptême est un témoignage. Vous savez bien qu'il y a eu des choses sur le baptême. On va voir dans les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres. Tout au départ, avec la prédication de Jésus, mort pour nos péchés et ressuscité, eh bien... il y a eu plein de gens qui se sont convertis. Hein. Alors, bon, Pierre a prêché 3 ou 4 fois, hein, c'est évident. Dans les chapitres 2, 3, 4, on voit, et puis boum, à peu près 25 000 convertis. Hein. Si vous ne croyez pas que c'est possible, hein, moi je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu en allant prêcher pendant 12 jours au Bénin. J'ai vu des centaines de personnes venir à Christ. Et ici, il me faudrait 1000 ans pour le même résultat. Pourquoi donc ? Alors, pratiquement, le péché est tellement aimé ici. Alors, pratiquement, ce qui se passe, je pense et je suis convaincu que l'évangile se répand dans beaucoup de peuples comme une traînée de poudre. Le problème après, c'est d'enseigner les gens, c'est de former des disciples, former des pasteurs, former des chrétiens, des diacres, etc. De construire les églises pour qu'elles vivent suivant les principes bibliques. Ça, c'est un gros boulot. C'est pas le tout d'aller prêcher, boum, 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 on passe et puis au revoir les frères, je vous laisse. Mais non, on voit bien que Paul, Pierre et tous les autres, ils repassaient dans les églises. Ils s'occupaient d'avoir des responsables. C'est pas simple. C'est pas simple. Moi, j'aimerais bien, hein, d'aller pouvoir prêcher l'évangile autre part. Mais il faut qu'il y ait ici des gens responsables pour que ça continue. De manière sérieuse. Actes chapitre 2. Donc Pierre a prêché et au verset 37, Actes 2, 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ?» Tiens, après une prédication, voilà des gens qui disent, « Ça y est, nous, on est décidé. Dis-nous ce qu'il faut faire. » Ça, c'est bon signe en général. Verset 38, « Pierre leur dit, « Repentez-vous, métanoïa, c'est changer de vie, hein ?» Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Y a-t-il un lien de subordination du pardon de péché au baptême? Je suis baptisé, je serai pardonné du péché, je recevrai le Saint-Esprit. Non. C'est un verset qui lie les trois, c'est tout. Non, parce qu'il y a d'autres textes pour nous montrer que le pardon des péchés n'est pas donné par le baptême. Et il est. D'autres textes nous montrent que le Saint-Esprit n'est pas donné par le baptême. Mais ça se trouve dans des églises évangéliques, des théories pareilles. Et ça se trouve, bien sûr, moi j'étais prêtre, eh bien, on baptise l'enfant, il reçoit le Saint-Esprit, il est configuré à Christ, hein, et il est intégré et incorporé au corps de Christ, il est sauvé. C'est chose bizarre qu'à l'enterrement, on prie pour le repos éternel de ce citoyen du ciel. S'il est tellement citoyen du ciel, il n'a pas besoin de prier pour son repos éternel, il l'a déjà. C'est chose bizarre qu'il y ait des péchés véniels et des péchés mortels. Il faut aller chercher le prêtre pour être pardonné les péchés. Les péchés mortels qui nous ont privés du salut. Si le baptême a donné le salut, il n'y a pas besoin de ce qu'on appelle le sacrement de réconciliation. La pénitence, c'est pas besoin du prêtre. C'est bizarre qu'il faut l'encensoir à l'eau bénite et qu'on des messes après la mort pour le salut des âmes. Si le baptême a donné la vie éternelle, c'est pas certain qu'il ait donné la vie éternelle. À mon avis, c'est un beau système construit par l'homme. Donc, le baptême ne donne pas le pardon des péchés, ni le don du Saint-Esprit, comme on le laisse croire à beaucoup de personnes. La foi est donnée par Dieu, la grâce de la foi est engendrée par la parole de la foi, d'un croyant qui parle dans l'Esprit Saint à un autre qui cherche Dieu, qui est travaillé par Dieu et qui est appelé par Dieu, et la parole de la foi engendre chez la personne la conviction de péché, engendre la conviction du besoin de salut et la repentance, et ensuite le pardon des péchés par Dieu de son ciel et le don du Saint-Esprit. Voilà ce qui s'est passé ici dans les actes. Repentez-vous, métanoïa, changez de vie, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. L'appel de Dieu est préliminaire à toute œuvre de salut. Vous le voyez bien, c'est mis là. Par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». La parole de Dieu nous amène à nous démarquer des autres hommes, pas à nous opposer, pas à les combattre, mais à nous démarquer. Le comportement et la mentalité, l'esprit ne sont plus les mêmes. L'esprit du ciel n'est pas l'esprit du monde. Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Il y a bien sûr un autre texte, un peu plus loin, où il y en a 5000. Hein? 5000! Vous vous rendez compte? Mais ça, je crois. En ayant vu ce que j'ai vu au Bénin, ça, je crois que c'est très possible. Très possible! J'ai vu aussi des miracles là-bas. Je ne suis pas parti pour prier pour qu'il y ait des miracles, et Dieu en a fait. Je ne suis pas parti avec des préjugés, à l'avance. Je suis simplement parti avec le Seigneur, et je n'avais pas un rond dans ma poche. Quand je suis descendu de l'avion, jusqu'au moment où je suis remonté, je n'avais pas un euro, un petit bout de fric à donner à qui que ce soit. Je m'étais saigné en quatre pour prendre le ticket d'avion, et c'est tout. Et j'y allais avec la parole de Dieu. On m'a demandé de prêcher. La seule chose que j'avais, c'est 300 prédications prêtes. Et je les ai mises dans la pièce où j'étais, enfermé tout seul, par table, suivant ce qu'on m'a dit. Il faut aller à telle église, il y a tel problème. J'ai fini. Et puis, j'ai demandé au Seigneur, j'étais seul, hein, entre 15 et 18 heures tout seul, de prier et de jeûner. J'ai demandé au Seigneur de me dire quelle, dans chaque pile, cette église-là, ça correspond ça, laquelle choisir. Je relisais toutes mes notes, je lisais la parole de Dieu, j'allais me promener, je rentrais, je regardais les gens, je priais en même temps, je rentrais et je devais savoir ce que j'allais dire devant une foule que j'avais jamais vue. Jamais vue. 800, 1000, 2000, une fois 6000. Pourquoi? La seule chose que je devais savoir, c'est ce que Dieu me demandait de dire. Pourquoi est-ce que Jean-Baptiste vivait dans le désert? Et ce Dieu lui suffisait. C'est pour ça que Luther a dit « Sola Dei, seulement Dieu ». Si vous ne vous débarrassez pas de toutes les idoles pour être seulement avec Dieu, vous n'êtes pas dans le protestantisme. Vous avez une forme détournée de catholicisme, c'est-à-dire de religiosité. Sola Dei, sola fidei, seulement la foi. Sola scriptura, seulement l'écriture.
Sola Deo gratia. Sola Deo gratia.
Sola Deo gratia, c'est la Deo gratia, la grâce de Dieu, qui vient de Dieu. Et vous vous rendez compte à quel point il faut simplifier. Vous voulez que l'arbre plante, vous coupez toutes les petites branches qui viennent en bas, vous le laissez pousser pour que la greffe qui est au-dessus du tronc qu'on a mis puisse donner. Si vous laissez pousser tout le rejet en bas, la greffe est déforcée, pour finir elle périt. Mais la greffe du Saint-Esprit, la greffe de Dieu dans votre vie, a nécessairement besoin d'une discipline, d'une rigueur. Il ne faut pas laisser pousser des rejets à la base et sur le tronc qui vont déforcer la greffe. Nous avons donc une responsabilité dans notre vie chrétienne. Alors, chapitre 2, verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Donc la parole acceptée, baptême accepté. Verstehen Sie bitte, vous avez compris que la foi est derrière la parole, et pas, on ne met pas la parole au bac, la parole de Dieu, c'est-à-dire Christ, au bac. Pour être simplement baptisé, dire j'ai mon stempel pour la vie éternelle, mais ça c'est de la comédie qui ne marche pas avec Dieu, ça ne prend pas ça. Alors, y aurait-il des problèmes avec le Saint-Esprit? Regardons les actes des chapitres 5. Il y a des problèmes, oui, il y a des problèmes. Il y a des gens qui essayent de tricher. Un homme nommé Ananias, il s'attira sa femme, vendit une propriété, il retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit, tu as retenu une partie du prix du champ. Donc, dans cette église, il y a un gros problème, c'est qu'il y a tellement de convertis, et ils viennent de partout. Ils viennent d'Érythrée, de Somalie, d'Éthiopie, du Soudan, ils viennent de Rome, ils viennent de partout de l'Empire romain. Tous des juifs qui viennent pour la Pâque et qui restent jusqu'à la Pentecôte, 40 jours après. Et pratiquement ce qui se passe, mes amis, 50 jours après, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là qui sont convertis, ben les premiers chrétiens qui étaient là, ils ne savaient pas le plan de Dieu. Mais ces gens-là doivent être formés par les apôtres, de recevoir la parole de Dieu, d'être bien formés, parce qu'ils vont fonder des églises et s'assembler dans leur maison, dans leur village, dans leur ville. C'est le point de départ en explosion de l'église de Christ. Eh bien, pour les nourrir, pour qu'ils puissent rester là, ils vont accepter de tout perdre. Ils vont vendre tout pour pouvoir qu'ils aient à manger. Rappelez-vous la multiplication des pains. Quand Jésus a dit à ces gens-là, à ses disciples dans la montagne, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Hein? Et alors, pratiquement, ce qui s'est passé, c'est que tous ces gens ont pu entendre pendant 2-3 mois, un mois et demi, la parole de Dieu de la part des apôtres et de fonder, connaître la fraternité, connaître la communion. Ils sont repartis heureux en Christ, et forts de Christ. Quand les Romains, Titus, est venu massacrer tout le bazar là, les chrétiens de Jérusalem étaient partis. Ils avaient tellement été pauvres et rejetés de leur famille, rejetés de tout le monde, ils étaient partis. Et où est-ce qu'ils étaient ? Partis chez les chrétiens, dans les églises qui avaient été fondées. Ils avaient donné de leurs biens et ils étaient reçus chez les autres mille fois mieux. Ils ont été reçus mille fois mieux. Dieu avait un plan pour eux. Aux chrétiens qui sait tout perdre pour Christ, Dieu a des plans bien meilleurs que les plans personnels forgés par soi-même. Et ici, nous avons quelqu'un qui ne veut pas que Dieu ait des plans sur lui. Il fixe des plans à ses limites, à sa mesure. Et Dieu n'est pas le maître de sa vie. C'est ça l'offense au Saint-Esprit. Verset 9. Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Donc l'Esprit Saint. Vous voyez le problème? Le problème de offenser et de atteindre le ministère du Saint-Esprit. Le ministère du Saint-Esprit construit l'Église. Et atteindre le Saint-Esprit, c'est détruire l'Église. Un autre problème, c'est au chapitre 6, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les hébreux. Ça y est, du racisme. Les casquettes, les médailles, les apparences, les pédigrés, les préjugés. Où est l'œuvre du Saint-Esprit si on cède à tout ça? Eh bien, oui, on avait qui cédait. Chapitre 6, verset 1. Parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. Donc, pour qu'elle crève de faim, c'est pas grave. Hein. Ils sont pas comme nous. Hein. Donc là, vraiment, c'est une offense grave à Dieu. Hein. Les 12, ils étaient capables de demander des dons de langue, hein, des dons de guérison en même temps. Hein. Parce que vous voyez ça dans la première aux Corinthiens. Hein. Ils se divisaient et tout, mais ils cherchaient des miracles, des guérisons et tout le reste, mais il manquait d'amour. Il a fallu que Paul dise en 1 Corinthiens 13 que l'amour est le don suprême. Alors, toujours le même truc. Combattre le mensonge qui veut régner dans l'Église. Les 12 convoquèrent avec les disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Donc, la parole de Dieu nous prend du temps. Il faut qu'on s'y consacre, mais il faut régler aussi le problème de l'Église. Alors, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient remplis plein d'Esprit Saint de sagesse et qui nous chargeront cet emploi. Donc, faire une tâche manuelle, une tâche de partage, une tâche de charité, d'amour dans l'Église, il faut être rempli tout autant du Saint-Esprit que celui qui parle, qui prêche. Hein. Il n'y a rien qui doit se faire sans le Saint-Esprit. C'est clair. Hein? Automatiquement, quand on a compris ça, que tout le monde est appelé à laisser régner l'Esprit Saint, qu'est-ce qui se passe? Les fruits sont évidents. Verset 7, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Quand une église fait la volonté de Dieu, je suis certain, elle contamine, elle donne la foi. La foi comme Dieu la demande ici. Hein. Confondez pas les fruits et le succès. Hein. Voilà, ça c'est extrêmement important, une atteinte à l'œuvre de l'Esprit-Saint, sous quelque forme que ce soit, est dangereuse dans l'Église. Et si on ne la voit pas arriver, si on la laisse régner, oh là là, ça va? C'est extrêmement important, vous pouvez lire les actes des apôtres, et vous verrez que toujours, il faut changer, convertissez-vous. Alors, le mot convertissez-vous, ça sera bon pour aujourd'hui, parce que je vois qu'il y en a qui baillent. Chez Bayeux, c'est normal. Bon, on baille toujours chez Bayeux, depuis qu'on est né. Alors, le mot se convertir, quand on voit dans la Bible en français, ben, c'est pas évident. Hein. Métanoïa, méta, c'est au-delà, hein. Métaphysique. Hein? Métamorphose, hein? La chenille se métamorphose en chrysalide, la chrysalide en papillon, métamorphose, changer de forme. Hein? Donc méta quoi? Noia, la vie, métanoïa, noia, changement de vie. Au-delà de la vie reçue par mes parents, tac, la vie de Christ, en Christ, pour Christ, par Christ. Ok? Mais il y a des autres mots dans les textes en grec. Hein, changer de vie. Et c'est ça le problème. Donc, strophéo. Strophéo. Alors, strophéo, pensez pas à parler de ça aujourd'hui, mais c'est important, je me rends compte. Strophéo, vous avez épistrophéo et apostrophéo. Apostrophé, quelqu'un, vous savez, hein? Je t'apostrophe, Michael. Hein? Ben, c'est pas tout à fait... Ça vient du grec, bien sûr. Donc, épi. Donc, j'ai un péché... Je tourne alentour, et, hein, épistrophéo, hein, ou j'ai une barrière, le cheval, il saute. Apo. Alors, apostrophéo, ça veut dire quoi? Devant un obstacle, un péché intérieur, un problème intérieur de désobéissance au Saint-Esprit, si je suis obstiné que j'aime Christ, je vais passer à côté et le péché. Ok? Je passe à côté. Je ne m'arrête pas au péché, je ne m'enfonce pas dedans. Je passe à côté. Et le péché est à notre porte. Hein? Nous descendons de Caïn. Il couche à ta porte. Hmm? Eh bien, le péché est toujours là. Si je passe à côté, bah, le chat ou le chien qui est sur le pied de la porte et qui m'attend, bah, je passe, je continue, je ne le regarde pas. Donc le péché, je ne le regarde pas. Je n'accorde pas trop l'importance qu'il devrait me donner, m'accaparer. Je marque une indifférence, une distance, apostrophe, hop, pof, allez hop, je suis au concours hippique, paf, je saute des barrières, j'affronte tous les péchés un après l'autre et je les passe. Je ne veux pas m'y casser la figure. Il faut donc se rendre compte que changer de vie au point de départ, ça n'empêche pas que le péché revient à la charge, ça n'empêche pas que le tentateur agisse. Donc la conversion prend dans les textes en grec des autres mots, mais en français, la conversion se vit tout le temps. Épistrophéo, apostrophéo, il faut, il y a encore un autre mot en grec, j'ai oublié, alors pratiquement ce qui se passe, il faut avoir un esprit de réforme. Alors ce qu'on dit de réforme il y a 500 ans, ça peut être quelque chose d'historique, comme la guerre de 14-18, 40-45, hein, comme Jules César, quoi, qui vient chez les Belges. Et qui dit homo fritus est, l'homme est une frite. Bon, eh ben non. Et on s'en fiche de Jules César, c'est fini. Mais avec Christ, c'est jamais fini. Il faut combattre le péché parce que le péché est toujours là. On a changé de vie, on est en Christ, mais avec Christ, le péché, je lui fais des pieds de nez. Je passe. Je ne m'arrête plus à ça. La génération perverse, c'est pas seulement le monde, c'est pas seulement ce qui se passe chez les autres, c'est la génération perverse que j'ai reçue d'Adam et Ève par mes parents. C'est tout ce que j'ai reçu dans mes bagages de famille, etc. Je dois passer à côté, je dois sauter au-dessus. Tout ce que j'ai reçu n'est pas acceptable. Et il revient toujours à la charge. L'œuvre de purification en Christ est toujours nécessaire. C'est ça que dans la deuxième épître de Pierre, Pierre dit dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, ils ont mis en oubli la purification des péchés. Vous connaissez ce verset-là, deuxième épître de Pierre. Il ne faut jamais laisser le péché nous dominer. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 9. Celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Donc, la tempérance, la foi, la vertu, etc. La patience. Il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification des péchés. Ben oui, il croit qu'il est arrivé. Hein. Je suis baptisé, j'ai la foi. Je donne un peu ou beaucoup d'argent. Je rends service. Ça y est, on est retombé dans les œuvres mortes, les œuvres méritoires. Le salut par soi-même, non ? Non ! C'est pourquoi, d'autant plus, frères, appliquez-vous à affermir votre vocation, votre élection. Vocation, vocare, l'appel. Élection, c'est Dieu qui m'a choisi, c'est pas moi qui l'ai choisi. Jésus le dit à ses disciples, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi. Jean chapitre 14. Eh bien, en faisant cela, vous ne broncherez jamais, vous ne vous casserez pas la figure. Vous pourrez continuer votre chemin avec le Seigneur. C'est extrêmement important. Donc, je pense parler de l'œuvre de l'Esprit Saint dans la Sainte Seine dimanche prochain. Pourquoi ? C'était un gros problème pour Luther, parce qu'il était dans un monde occidental où on a prêché que le pain et le vin, avec la prière au Saint-Esprit par le prêtre, le pain devenait le corps de Christ, le vin devenait le sang de Christ. Jamais Luther n'a cautionné cette doctrine. Jamais. Mais il a toujours dit que quand on prend le pain et le vin, Dieu est présent. Et l'œuvre de l'Esprit Saint est puissante. Mais il n'a pas dit qu'il y avait transsubstantiation. Et donc, la Sainte Seine est un moment extrêmement important avec la parole de Dieu et le baptême dans l'Église. Le baptême dans la foi est un moment très important. Le témoignage pour Dieu, pour les anges, et aussi contre les principautés, les forteresses, les dominations, les lieux des péchés, les lieux méchants, et pour déclarer sa foi et que d'autres soient touchés. Mais la prise de la Sainte Seine, c'est aussi une avancée vers Dieu, une mise en présence de Dieu qui vient vers nous pour nous rappeler sa grâce dans le sacrifice de Christ. Et la Sainte Seine est capitale aussi. Or, ça fait des mois qu'on ne la pratique plus. Il faut vraiment être en ordre pour prendre la Sainte Seine, mes amis. On ne peut pas jouer avec ça. Il faut être en ordre, c'est pour ça que j'en parlerai la fois prochaine. Et tout comme le baptême,